Voilà, bien très heureux de cheminer avec vous à travers cette nuit devant le Seigneur. Voilà, c'est une grande grâce d'être là ce soir, de pouvoir prendre ce temps d'adoration. En quelques mots, voilà, je viens de Suisse. Avant que je sois prêtre, je suis un vieux monsieur, mais un jeune prêtre. Puis ça fait maintenant 15 ans que je suis prêtre, je crois. Et donc, avant, j'ai eu une vie. Avant le sacerdoce, j'ai commencé par des études de droit. J'ai fait du droit, j'ai fait une formation d'avocat. Et puis, j'ai fait de la politique aussi. J'avais été élu à 23 ans au Parlement de la région de Suisse où je viens, du Valais. Comme ça, donc une vie très active de ce côté-ci. Mais en même temps, avec Dieu, voilà, je viens d'une famille catholique, pratiquante. Je me souviens que mon père faisait de l'adoration nocturne. Et il sortait de la maison quand moi je rentrais. On n'était pas été au même endroit. Et lui partait à 3h du matin. Et quand je rentrais de bonne heure, je le croisais qu'il allait adorer. Puis moi je rentrais me coucher. Pas dans la même forme d'ailleurs que mon père. Et donc, c'était un petit peu cette... Je pratiquais comme ça jusqu'à 20 ans. Et quand j'ai commencé mes études de droit, avec des amis, on a commencé vraiment à faire la fête. J'allais pratiquement jamais en fac. J'ai passé mes examens, c'est tout ce que je faisais. Et puis très vite, ma conscience a commencé à me travailler. J'habitais aussi avec une fille à l'époque. Et ma conscience me disait, est-ce que tu es sûr que ce que tu vis, c'est bien? Et pour ne pas écouter la conscience, je mettais la musique à plein tube et je faisais énormément de sport. J'allais courir, je faisais de la montagne, de l'escalade. Et quand j'étais à la messe, quand j'allais encore quelques fois, la voix est encore plus forte. Elle me disait, est-ce que tu es sûr que ce que tu vis, c'est bien? Alors, pour plus entendre la voix, j'ai arrêté d'aller à la messe, jusqu'au jour où il y a eu une expérience qui s'est faite, où je me suis rendu compte que je jouais avec la vie, je jouais avec tout ça, et que c'était pas clair. Et je me souviens, un matin, ça m'a vraiment rattrapé très très fort, et j'étais dans une église, et pendant 2 heures, je pleurais, en voyant un petit peu toutes les conneries que j'avais faites, tout le mal que j'avais pu faire aussi à des personnes, et ce chemin d'égarement que j'avais pris. Et puis au bout de 2 heures, une petite voix qui dit, ben, va te confesser. J'ai dit non, pas question, je te demande pardon comme ça, ça fait des années que j'avais pas été, ça va très bien. Et puis la voix était tellement insistante que je me suis dit, c'était 11h moins le quart, et en regardant ma montre, j'ai dit, ben, j'irai 11h15. C'est un monastère de franciscains, capucins. Et je me suis dit peut-être que le monastère allait fermer à 11h et que si j'arrivais à 11h15 devant la porte, j'aurais bien essayé mais pas pu quoi. Alors j'arrive à 11h15 précise devant la porte et c'était marqué confession de 9h à 11h30. Je dis bon, alors je sonnais quand même, je sonne, il y a un vieux capucin qui ouvre la porte. Je crois que manifestement il avait déjà commencé à boire l'apéritif. Ça se remarquait. Et alors j'ai dit, bon, lui ne me connaît pas, moi je ne le connais pas, je cours plus vite que lui, il n'arrivera pas à me rattraper, je me casse au pas de course. Et là, le Seigneur m'a dit dans mon cœur, mais écoute, voilà, ça fait assez longtemps que je t'attends, tu vas y aller. Quand toi tu faisais la fête, moi je devais te supporter comme tu étais, tu peux bien supporter mon prêtre comme ça. Et alors, je me suis confessé. Et à la fin, quand il m'a dit « Eh bien moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés », il y a une paix et une joie qui est venue dans mon cœur, la paix et la joie que je cherchais depuis très longtemps, qui m'était donnée à ce moment-là. J'étais 4 jours de suite. J'étais 4 jours de suite me confesser pour entendre ces paroles. « Va en paix ». Alors ça marche du premier coup la confession, hein, vous savez. Mais j'étais 4 jours de suite entendre ces paroles, va en paix. Et j'ai compris une chose très importante, c'est que l'endroit où moi je me déplaisais, l'endroit où je ne me supportais pas, ben c'est là que Dieu m'attendait. Ce que j'essayais de fuir de ma pauvreté, de mon péché, de ma misère, Dieu me regardait, mais pour me sauver, pour me relever, en me disant, je t'ai vu bien sûr, mais c'est là que... Dans ta misère, je t'attendais pour te donner ma miséricorde. Et pour moi, c'était vraiment une expérience bouleversante, le sacrement de la réconciliation. Ça reste toujours une immense joie dans ma vie d'aller recevoir ce pardon de Dieu, de pouvoir repartir dans la vie avec ce pardon de Dieu, de pouvoir engloutir ma misère dans sa miséricorde. Voilà, c'était la première expérience. Je crois que c'était vraiment ma rencontre avec Dieu. J'avais eu, je me souviens quand j'habitais avec cette fille encore, que je m'étais éloigné de la foi. Elle venait d'une famille pas croyante et s'approchait de Jésus. Elle avait rencontré Jésus. Et un jour, elle m'avait invité à une retraite de jeunes, c'était à Pâques. Et alors, je dis non, mais je n'ai pas envie de venir, j'ai mes examens de droit à passer juste après. Et puis, je n'avais pas envie de voir le prêtre qui animait la retraite, parce que je le connaissais, mes parents le connaissaient, je ne voulais pas parler avec lui de ma vie. Et puis, elle me dit, mais tu pourrais au moins me conduire là-bas, c'est un peu en dehors de tout lieu d'accès. Alors, je dis, bon, ben, je te conduis, je te laisse au bas de la route, tu prends tes bagages, tu vas en haut toute seule, et moi, je me casse. Puis, j'arrive là-bas, puis... Elle me dit, mais écoute, il y a une grande pente, tu pourrais me conduire jusqu'en haut quand même, puis je dépose les bagages en haut. Je dis, oui, mais je ne sors pas de la voiture. Et j'arrive en haut et le prêtre me saute dessus dans la voiture. Elle me dit, mais tu viens avec nous à la retraite, c'est génial. Je dis, non, mais oui, mais reste avec nous ce soir au moins, c'est jeudi saint, ça vaut la peine. Et puis je suis resté, je me suis fait avoir, pigeon. Et il y a eu une nuit d'adoration d'ailleurs. Et puis je suis resté. Je ne comprenais pas, enfin, je savais ce que c'était quand même. Mais j'étais surpris de voir des jeunes qui restaient la nuit entière devant Jésus comme ça. Et ça m'a beaucoup touché. Et puis le vendredi, j'ai dit, bon, vendredi matin, je pars de bonne heure. Puis le prêtre me dit, mais écoute, Jésus meurt pour toi aujourd'hui. Tu ne peux même pas partir le jour où il meurt pour toi. Bon, d'accord. Mais je pars juste après la célébration. Alors, après la célébration de la croix, vers 6 heures du soir... Il me dit, mais tu ne peux pas partir avant la résurrection quand même. Mais quand même, tu attends de la résurrection. Alors là, j'ai négocié avec le bon Dieu. J'ai dit, bon, tu te débrouilles pour me faire passer mes examens après. Et moi, je reste là pour toi ce soir. Et donc, il y a eu des, ça, c'était la première chose où j'étais un peu touché. De voir, ouais, de voir des jeunes prier. Mais la vraie rencontre, c'était dans le pardon, vraiment. Je dis, cette expérience du pardon m'a ramené vraiment vers l'Église, m'a ramené dans la vérité de la foi aussi catholique. Avec cette fille, on a encore habité quelques temps ensemble, mais dans la chasteté, c'était une découverte bouleversante, de découvrir aussi tout l'enseignement de l'Église. Moi, j'avais beaucoup condamné cet enseignement de l'Église, notamment du pape, sur la chasteté et tout ça, et je découvrais que c'était le chemin de bonheur, que c'était le chemin de liberté, le chemin de vérité. Et donc, dès cet instant-là, je me suis dit vraiment, l'Église m'enseigne le chemin de la vie et du bonheur. Et donc, je vais accueillir tout ce que l'Église m'enseigne. C'est ma mère qui me conduit à ça. Et puis, une deuxième étape qui a été très importante, dans ma formation d'avocat, j'ai dû m'occuper d'un jeune qui avait violé et brûlé plusieurs enfants, 6 enfants, enfin, agressé 7 et violé et brûlé 6. Et ça a été... c'était un choc pour moi, un choc. J'ai lu le dossier d'abord, et puis un jour j'ai dû aller en prison voir cette personne. Et la première fois que je l'ai rencontré, tout le monde parlait d'un monstre, d'un sadique. Et ce qui m'a bouleversé, c'est que c'était un être humain. Il avait une tête, deux bras, un corps, des jambes, enfin comme tout le monde. Et si je l'avais rencontré avant qu'il soit arrêté par la police, je l'avais rencontré dans la rue, j'aurais jamais su tout ce qu'il avait fait. Il y avait une sorte de choc total en moi entre ce que je savais de ce qu'il avait fait, de ce que je voyais de lui. Et j'ai une certitude à ce moment-là que c'est pas le look, c'est pas l'apparence qui sont importantes, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et je me disais, il faut vraiment faire la révolution des cœurs maintenant. C'est la seule chose qui pourra changer ce monde, une révolution des cœurs. Et alors, vous savez, quand on montre quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui vous montrent vous-même. Et puis c'était pour me dire, ben, il faut que tu convertisses ton propre cœur. Et alors à l'époque, j'avais un ami qui se trouvait en Italie, dans une maison d'accueil de personnes handicapées, physiques et mentales, profondes. C'était le Cotolengo à Turin. Et j'ai dit, j'irai passer mes vacances de Noël là-bas. Alors je téléphone, je dis, écoute, ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu. Je dis, voilà, j'aimerais bien passer mes vacances de Noël avec toi. Est-ce que c'est possible de venir ? Puis il me dit, oui, mais tu as déjà travaillé avec des personnes handicapées ? Je dis, non, jamais. Il me dit, tu sais... Certains arrivent là, ça leur paraît tellement dur qu'ils ne défont même pas leur valise, ils repartent avant. Donc si ça t'arrive, tu ne seras pas le premier. Je dis, ben, merci beaucoup. Et alors, à l'époque, donc, je vous disais, j'étais en politique, je travaillais au Parlement suisse aussi, donc j'avais fait une session de 3 semaines extrêmement éprouvante. On avait beaucoup travaillé et je partais en Italie. Et sur ma route, un petit détail qui est assez important, Ma sœur habitait sur cette route, elle avait eu un enfant, j'avais à peine vu mon petit-neveu, et donc j'ai dit, ben, j'irai embrasser mon petit-neveu, leur souhaiter bon Noël, et puis je partirai en Italie. Et quand je suis arrivé chez ma sœur, elle était en train de changer mon petit-neveu. Vous savez, quand on change un bébé, il y a des effluves qui se dégagent des langes, ça caresse le sens olfactif, et en fait ça pue, quoi. Et alors quand je me suis penché, j'ai senti les odeurs, je me suis retiré en arrière, j'ai fait coucou de très loin à mon neveu, en disant, ma sœur, elle a beaucoup de mérite. Vous allez voir que c'est très important pour la suite, parce que alors, je suis arrivé en Italie, on ouvre une porte, il faisait gris, c'était pas beau, j'étais crevé, on ferme la porte à clé derrière moi, et une quinzaine de personnes, les moins handicapées, s'approchent de moi, et je savais pas comment faire, on avait fermé la porte, je pouvais plus partir. Et alors ils sont venus vers moi, ils m'ont embrassé, ils m'ont pris dans les bras, ils m'ont parlé, pour ceux qui parlaient, deux, trois mots. Et puis on a passé un moment comme ça. Et c'était plus simple que de saluer un ministre, vous savez, je ne sais pas pourquoi. C'était tout simple. Puis le soir, à 10h du soir, le frère me dit, bon, on va aller se coucher. Je dis, ah ben oui, je suis complètement crevé, on va aller dormir. Et puis il me dit, on va juste voir si les malades dorment bien. Et on arrive, on visite les malades, on ouvre la porte d'un dortoir, le dortoir des plus gravement handicapés. Une odeur, mais une odeur. Mon petit-neveu, c'était du gâteau à côté, je peux vous dire. Sur 20 malades, 18 étaient pleins de la tête aux pieds. Et le frère me dit, bon, on va aller les nettoyer. Je dis, ouais, demain matin. Il me dit, toi, tu aimerais dormir comme ça? Je dis, non. Il me dit, mais tu sais, ils sont faits comme toi. Eux non plus, ils n'aiment pas dormir comme ça. Je dis, mais moi, je ne sais pas si toi, tu es fait comme moi, mais moi, les odeurs, je n'arrive pas. Déjà, mon petit-neveu, avant, je n'ai pas réussi, là. Et j'ai dit, j'ai une idée géniale. Tu vas ouvrir la fenêtre. On va se prendre un bon café italien bien tassé et on vient dans une demi-heure, ça sera aéré et là je vais donner un coup de main. Il me dit, ouais, ton idée elle est stupide parce que si on fait comme ça dans 10 jours, ils sont tous morts d'une bronchopneumonie. Je dis, mince. Et là je rêvais de mon masque à gaz militaire, vous savez, j'étais officier dans l'armée suisse aussi. Et donc on devait porter le masque à gaz, des fois ça ne servait à rien. La seule fois ça me servait, je ne l'avais pas. Et donc je suis rentré en apnée, j'ai retenu mon souffle, il a fallu respirer au bout d'un moment. Il m'a expliqué comment il fallait faire. C'est assez simple, vous savez, c'est pas compliqué. Il m'a dit, toi, tu commences à gauche, moi à droite. Quand on se rejoint, on a fini. Ah, je dis, enfin une parole sensée. Alors, j'ai commencé à gauche. J'ai levé la première couverture. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dessous, j'ai rebaissé. J'étais vers le deuxième. J'ai dit, lui, il a 10 ans de boîte. Il fera les plus sales, moi, je ferai les moins sales. J'arrive vers le deuxième. C'était la même chose que le premier. Je suis revenu au premier. Et ça durait 2 heures. Et pendant 2 heures, on a fait ça. Et je sais pas comment vous dire, mais il y avait cette parole qui revenait en boucle. Tout ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. C'est à moi que tu l'as fait. C'est à moi que tu l'as fait. Et ça m'a tellement frappé, cette parole. J'avais une joie qui emplissait mon cœur, mais incroyable. Et j'ai compris 2 choses. D'abord, que la grâce de Dieu était capable de faire en nous l'impossible. Je n'avais pas été capable de supporter mon petit-neveu avant, ce qui était assez normal pour un enfant. Et j'étais capable, avec des adultes, de passer 2 heures à faire ça. Puis, deuxièmement, que le don, ben, c'était la joie. Quand on s'oubliait soi-même, qu'on rendait service et qu'on servait les autres, ben, on était heureux. C'est quand on s'occupe de soi, qu'on se replie sur son nombril, qu'on devient malheureux, vous savez. Et donc, c'était une grande découverte pour moi, cette double découverte de la grâce de Dieu qui fait l'impossible et de la joie qui naît du don. Et du coup, j'étais plus fatigué. Je suis descendu à la chapelle. Il y avait l'adoration des saints sacrements, l'adoration perpétuelle là-bas. Et je ne sais pas comment vous le dire, je sais qu'une chose, c'est que quand j'ai vu Jésus, là j'ai dit, c'est lui. J'avais été communié dizaines de fois déjà, des centaines sans doute. J'avais chaque fois dit amen quand on me donnait le corps du Christ. Et si on m'avait dit intellectuellement, c'est qui, j'aurais dit, c'est le corps du Christ. Je n'avais pas eu cette stupeur d'être certain que c'était Jésus. C'était vraiment, je suis arrivé devant, j'ai regardé, je dis, mais c'est lui, mais c'est Jésus. Je l'ai croisé en haut avec les malades, je le croise là maintenant, et c'est Jésus. Alors du coup, je reste un bon moment à adorer Jésus au Saint-Sacrement, avec cette joie inouïe de savoir que c'était lui. Le même qui avait porté Marie, le même qui avait été touché par Marie-Madeleine, le même qui avait guéri le paralytique, le même qui était mort et qui était ressuscité, ben, c'était lui, c'était Jésus qui était là. Sous le look d'un bout de pain, sous l'apparence d'un bout de pain, mais c'est vraiment Jésus qui était là. Et c'était une telle joie. Alors, il y a d'autres expériences que j'ai vécues là-bas, je ne veux pas trop en dire, mais qui m'ont énormément touché. Je me souviens toujours de Liborio. Liborio était un enfant, il a déjà une vingtaine d'années, qui était complètement paralysé. Il était sur un lit, il faisait une sorte de S, son corps était tout tordu comme ça. Il avait encore une microcéphalie, donc le sommet du crâne très petit, une grande bouche comme ça. Et chaque fois qu'on devait lui faire des soins, il souffrait terriblement. On voyait, ça le crispait. Mais dès qu'on caressait Liborio, son sourire prenait toute la place dans le visage. Et moi, j'allais souvent, après l'adoration, voir le sourire de Jésus dans le visage de Liborio. Alors un jour, j'étais là, je caressais Liborio. Et puis un frère me dit, tu sais, un jour, il y a des gens qui avaient financé l'institution d'un club service, Rotary ou je ne sais pas quoi, le Lions. Et puis, quand ils ont vu Liborio, trois chefs d'entreprise ont dit, des gens comme ça, on ne devrait pas laisser libre. Et le frère a entendu ça. Et il a dit, effectivement, Liborio, c'est un grand mystère, sa souffrance, sa paralysie, mais c'est plus que ça. Il y a la vie en lui et il y a la joie dans son cœur. Puis il a caressé Liborio. Et Liborio s'est mis à sourire. Et un des chefs d'entreprise a dit, si un homme comme ça est capable de sourire, alors Dieu existe. Et quand j'étais là-bas, ça faisait 11 ans que ces trois chefs d'entreprise venaient tous les samedis matins raser les malades. Complet, cravate, tout installé. Tous les samedis matins, parce que Liborio leur avait souri et qu'ils avaient à ce moment-là rencontré le visage de Dieu. Et ça m'a tellement touché, ça, vous voyez, un tout pauvre, paralysé, a été capable de toucher le cœur de Dieu par son sourire qui irradiait la grâce de Jésus. De sorte que, quand je suis revenu de là, j'avais qu'un désir, c'était de tout abandonner, tout quitter. Mon vieux père spirituel qui avait 93 ans, était sur chaise roulante, j'ai dit, il va sauter de joie, il va marcher. Et puis, c'est pas ce qu'il m'a dit, il m'a dit, tu continues la politique, tu continues le droit, tu sèmes l'amour là où tu es, et quand le bon Dieu aura besoin de toi, il te sifflera. Alors j'ai continué un petit peu comme ça, et le coup de sifflet est venu un peu plus tard, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, alors il y avait pas mal d'expériences encore à raconter. C'est vrai qu'à travers ce travail, le rassemblement que j'avais préparé avait lieu à Séoul en Corée, et il y avait pas mal de rassemblements dans différentes régions du monde, donc je me suis retrouvé en Amérique latine, dans différents pays d'Asie. Et chaque fois que je pouvais aller quelque part, j'essayais de passer un temps dans un bidonville pour toucher un peu la réalité du monde, la réalité des gens. Et donc, voilà, c'était un petit peu... J'étais extrêmement bouleversé par ça, voyez-vous, de découvrir mes frères et sœurs les plus pauvres, mais qui étaient mes maîtres en quelque sorte. J'ai tellement appris dans ces lieux de pauvreté, dans ces lieux de misère. J'étais... Voilà, c'était vraiment une pédagogie de Dieu pour m'enseigner l'Évangile. Et... Je devais renouveler mon contrat pour le Vatican, et puis j'avais au fond de mon cœur un cri quand même qui montait, c'est Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Et puis la pauvreté franciscaine, je ne savais pas très bien ce que c'était, enfin j'avais compris un petit peu François d'Assise, mais je comprenais que j'avais quitté l'étude d'avocat, j'avais quitté la politique, j'étais venu travailler pour le Vatican, c'était déjà un pas que j'avais fait. Par la grâce de Dieu, vraiment, ça aurait été impossible autrement. Et puis ensuite, j'étais là, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais il y avait ce cri qui habitait mon cœur. Et puis, c'est à ce moment-là que vraiment, de manière très claire, le Seigneur m'a demandé de partir dans un ermitage. J'en ai parlé avec le cardinal Etchegaray, qui, au moment, m'a dit oui quand même, l'évêque du lieu qui m'avait accueilli, mon père spirituel qui avait bien sûr accepté aussi. Et donc, alors c'était quand même une décision, c'était vraiment l'appel de Dieu, je ne pouvais pas y renoncer, mais je me suis dit, mais tu n'auras plus rien, plus d'argent, plus rien. Il faudrait être prêt même à aller faire les poubelles si tu as faim. Ce n'était pas mon genre, je peux vous assurer. Alors, je passais dans les poubelles des fois, puis je regardais, je dis, non mais j'arriverai jamais. Et puis je connaissais des clochards à Rome, et un soir ils viennent vers moi, je parle avec eux comme ça, puis ils me disent, tu m'en joues ce soir. Quand des clochards vous invitent à manger, ça fait un peu bizarre, vous savez. Et puis je dis, chez moi, ils me disent, viens manger avec nous. On a été faire les poubelles de l'hôtel à côté. C'est excellent ce qu'il y avait dedans. On partage ce qu'on a pris, il y a assez. Et j'ai trouvé tellement délicat de la part du bon Dieu parce que je n'ai pas besoin de faire les poubelles moi-même. Je n'aurais d'ailleurs pas su trier dans une poubelle ce qu'il y avait de bon ou de pas bon. C'est eux qui avaient fait pour moi. Effectivement, c'était très très bon. Ils avaient trouvé le bon filon, le bon truc. Et je dis, bon Seigneur, il y aura toujours un bon clochard qui me partagera un bout de viande, de saumon comme ça, qu'il aura ramassé dans une poubelle. pour me nourrir. Donc je peux aller tranquillement. Et je suis parti dans cette petite grotte de 9 mètres carrés. Je suis parti pour une année en me disant, voilà, après une année, le Seigneur m'appellera sans doute ailleurs. Puis ça a duré 2 ans, 3 ans. Ce que je n'avais pas prévu, moi j'avais prévu l'adoration, un peu de travail. Enfin, tout était un petit peu compliqué. Il y avait de l'eau à 300 mètres, il fallait chercher l'eau à la fontaine. Prendre une douche, c'était en plein air. En hiver, c'était plus sportif. Je coupais du bois avant pour bien me chauffer. Puis après, je prenais la douche comme ça. Et puis, voilà. Et puis, il y a pas mal de gens qui sont venus en visite comme ça. Des personnes qui venaient confier un petit peu leur souffrance, confier leur détresse. Cette fille dont je vous parlais tout à l'heure et tant d'autres encore. Et ça m'a beaucoup touché, ça aussi. C'était une extraordinaire pédagogie de Dieu. Je peux vous dire, la première chose que j'ai fait, c'est 3e jour... J'entends frapper à ma porte de l'ermitage. Moi, j'étais sûr que je serais seul. Il n'y aurait personne qui viendrait. Je vois une dame devant. Elle me dit, j'étais curieuse, j'ai vu de la lumière. Vous faites quoi là? Je dis, ben voilà, Dieu m'a appelé ici. Est-ce que je peux rentrer? J'ai le cœur qui est trop gros. Je dis, ben allez-y. Alors elle m'explique que sa fille à 15 ans est enceinte. Son fils fume du cannabis. Son mari... est alcoolique et ne paye pas la pension alimentaire, et elle a un petit travail de rien du tout qui est sous-payé et qui est en dessous du minimum légal. Et elle me dit, j'arrive plus à vivre, qu'est-ce que je fais? Et j'ai recommencé à faire du droit. Donc la première chose que j'ai fait à l'Ermitage, c'est du droit. C'est d'écrire au prud'homme et d'écrire à ce patron en disant, voilà, écoutez, il y a un truc qui n'est pas très juste, est-ce qu'on pourrait revoir les choses? Alors pour la petite histoire, c'est que le patron me faisait porter par cette dame après, c'était une boulangerie, pâtisserie, des petits gâteaux. Donc j'avais des super petites tartelettes aux fraises, au citron qu'elle m'apportait de la part de son patron, que j'avais quand même conduit au prud'homme et qui avait reconnu quand même que c'était pas normal comme il traitait cette personne. Voilà. 2 jours après, c'est la copine de celle-ci, dont le fils était schizophrène, fumeur de cannabis, dont le mari la battait, et encore, voilà. C'est... Et donc, 2e fois, j'ai fait du droit. Et voilà. Et le Seigneur m'a fait comprendre aussi que ce qu'il m'avait donné par avant, c'était aussi, ça servait là. Et puis ces nuits d'adoration. Un jour, j'ai des visites, ça commence à 4h du matin. Personne qui débarque, il frappe à la porte, il dit, je vous dérange pas. Je dis, non, évidemment, à 4h du matin, comment peut-on imaginer qu'on dérange quelqu'un? Et c'est une très belle histoire, vous savez. C'est un monsieur qui était sorti en boîte de nuit. Et je lui ai dit, c'est une paroi verticale, il y avait la chapelle et le petit ermitage avec une petite lumière, qui s'assoyait. Et il était parti avec une femme, comme ça, il était marié, mais partait avec une femme. Il passe là-dessous. Il voit en haut la statue éclairée de la Vierge Marie et dit, je ne peux pas faire ça à ma femme. Je ne peux pas la tromper. Il a ramené cette femme qu'il avait prise et puis il est monté là-haut à 4h du matin pour dire merci à Marie de l'avoir gardée fidèle. Je dis, voilà, vous avez bien fait de me déranger pour ça. Voilà, ça c'est la délicatesse de Dieu, vous voyez. Dieu qui vient travailler, qui vient rechercher pour nous aider à être fidèles. Et puis, je pensais que c'était une année, qu'après je partirais au séminaire ou je ne sais pas quoi. Ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, j'ai compris que j'allais finir mes jours dans cet ermitage, ce qui était une joie inouïe. Et puis, il y avait des jeunes qui venaient, qui sont venus me trouver en me disant, voilà, on aimerait bien... Des jeunes qui disaient, ben, on aimerait bien apprendre à prier, avoir de la formation, il n'y a rien qui existe, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Donc, on a commencé à faire des soirées de prière, des temps de catéchèse. Et puis d'autres jeunes qui venaient de la drogue, de l'alcool, de la dépression, de la souffrance, de la violence, et qui disaient, mais aidez-nous. Alors ils venaient aussi à ces soirées. Et puis un jour, ils nous ont dit, mais écoutez, nous on vient ici tous les 15 jours, c'est le ciel, et après on retombe en enfer. Aidez-nous à sortir de l'enfer, faites quelque chose pour nous, accueillez-nous. Et alors on ne savait pas très bien comment... Enfin, moi j'ai dit, moi je suis là, il y avait un ancien terroriste qui avait tué je ne sais pas combien de personnes, qui a passé... 15 jours avec moi dans ces 9 mètres carrés. Le problème, c'est que la nuit, il angoissait et donc il parlait toute la nuit, puis la journée, il se reposait quand moi, je devais faire autre chose. Donc, ça devenait assez lourd. Et puis, les autres qui avaient tous un travail ont commencé à ouvrir leur maison pour accueillir ces jeunes en difficulté. Ils squattaient le salon, ils squattaient une chambre d'amis. Et voilà. Et c'est là qu'est née une autre étape. L'étape d'une communauté qui est née là autour, mais je vous en parlerai tout à l'heure, on va prier la miséricorde. Voilà, donc ces jeunes nous parlaient de ça, et puis ils étaient accueillis par les autres, et notre père spirituel qui suivait un petit peu notre notre groupe, comme ça, un très bon jésuite, disait, mais peut-être que Dieu veut créer quelque chose, une communauté autour de ça. Alors moi, je dis, non, il y en a assez de communautés. Moi, je suis ermite, je ne quitterai plus mon ermitage qu'à la fin de mes jours. Voilà. Et puis, les autres ont commencé à prendre un temps sabbatique pour accueillir ces jeunes. Des personnes qui venaient prier avec nous nous disaient, mais venez dans notre paroisse faire une veillée de prière. Donc, des paroisses nous invitaient aussi à faire des temps d'adoration. Et il y a tout un mouvement qui s'est créé là autour. À un moment donné, notre père spirituel dit, écoutez, il faut en avoir le cœur net. Si Dieu veut une communauté ou pas, qu'est-ce qu'il vous faudrait comme signe concret? On dit, ben nous, on est des franciscains, on aimerait une vieille ferme. On dit, bon, très bien, vous voulez une vieille ferme. On va faire une neuvaine. À qui voulez-vous confier ça? On dit, bien sûr, à François d'Assise. On était au mois de janvier, début janvier, il y a 20 ans en arrière, un petit peu plus. Et puis, il dit, non, François d'Assise, ce mois d'octobre, trouvez un saint au mois de janvier. On dit, ben, François de Sales, bien sûr, le 24 janvier. Donc, on fait une neuvaine à Saint-François de Sales. Et le 24 janvier au soir, on est dans une paroisse. On n'avait dit ça à personne. On était quelques-uns à prier. On était 6 ou 7, comme ça, vous voyez. Et le soir, 11h, une personne vient vers moi. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'ermitage? Raconte-moi un petit peu. Je vois des gens qui viennent un peu. Puis, à la fin, je dis, si on reçoit une vieille ferme, c'est peut-être le signe que Dieu veut qu'on crée une communauté. Il dit, mais tu cherches une vieille ferme? Je dis, non, moi, je ne cherche rien du tout. Mais si on en reçoit une, c'est le signe de Dieu. Il dit, mais mon oncle, il en a une. Oui, mais ton oncle, ce n'est pas toi. Il dit, mon oncle n'a pas d'enfant. Et viens, on va regarder. Donc, on descend à 5:30, on arrive devant cette vieille ferme qui est en fait en ruine, puisque ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas habitée. Et je dis, mais écoute, je savais plus où j'étais, quoi. Il dit, je téléphone à mon oncle demain, puis je te donnerai des nouvelles. Et je vais chez son oncle 2 jours plus tard. Et à la fin du repas, il me dit, alors toi, tu es venu pour la ferme? Je dis, oui. Et puis il me dit, elle est à toi. Je dis, mais on n'a pas de sous, on n'a rien. Il dit, mais qui t'a parlé d'argent? C'est toi l'avocat, tu fais les papiers. Quand c'est en ordre, tu me dis, on signe. Et c'est parti comme ça. Et ce qu'elles m'ont dit bien plus tard, c'est un couple qui n'a pas eu d'enfant, donc. Et l'épouse de cet homme avait eu un songe. Des gens catholiques de paroisse, dans la chorale de la paroisse. Et voilà, une bonne famille, mais tout simple, quoi, comme ça. Et puis, elle me raconte, mais 4-5 ans après qu'on ait réparé la ferme, installé là-bas, elle me dit, tu sais, il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, j'ai fait un rêve un soir. J'ai vu plein de jeunes autour de la ferme qui chantaient, qui dansaient. Et on a justement une veillée de prière avec plein de jeunes, avec 150 jeunes qui étaient là. Et elle dit, c'est exactement le songe que j'ai eu il y a 20 ans en arrière, en voyant tous ces jeunes qui étaient là autour de la ferme, comme ça. Donc est née une petite communauté qui s'appelle Eucharistein. Nous avons 4 maisons maintenant, 2 en Suisse, 2 en France, avec l'adoration eucharistique au centre de notre vie, donc pratiquement jour et nuit. Enfin, il y a un lieu où on a depuis 12 ans, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis les autres, c'est de 5h du matin à 10h du soir et 3 nuits par semaine. Voilà. Et donc, ça c'est le cœur de notre vie. On accueille des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la dépression, la violence. Et ce que je vois vraiment, enfin ce qu'on expérimente, c'est la force de l'adoration. J'ai un jour une fille qui avait 15 ans et demi, 16 ans, elle a quitté la maison à 13 ans, elle s'est trouvée dans la rue, elle sortait avec un dealer qui s'est fait descendre en pleine ville de Genève, une balle dans la tête par un autre dealer, qui était plus âgé qu'elle, bien sûr. Et quand on m'a téléphoné un jour, un assistant social, elle était en hôpital psychiatrique, cette fille, elle avait défoncé l'infirmière qui était venue lui faire une piqûre de calmant. L'infirmière a dû être hospitalisée. Et l'éducateur m'appelle en disant, elle veut venir chez vous. Sa sœur, qui était venue chez nous, avait fait 5 ans d'héroïne auparavant. Elle s'en est sortie, elle a passé maintenant son doctorat en philosophie. Elle est docteur en philosophie, mariée, elle entend un enfant. Voilà. Donc sa sœur avait connu par cette sœur notre lieu. Et puis, elle débarque là. Enfin, moi, je me méfie comme ça, c'est pas possible. C'était un vendredi, je me souviens, puis il me dit, écoutez, on va la mettre à la rue, puis la police s'occupera d'elle. Je dis, non, écoutez, il n'y a pas une autre solution. Puis il me dit, non, ou elle vient chez vous. Je dis, bon, bah, écoutez, amenez-la lundi matin. Puis il dit, bon, bah, la met dehors pour le week-end, on ne peut pas la garder là, c'est trop dangereux, donc si on la retrouve lundi, on vous la ramène. Je dis, bon, alors, amenez-la ce soir, vendredi. Il me dit, bon, j'arrive tout de suite. Je dis, ah, quelle crapule. Alors il débarque avec cette fille, Et c'était l'horreur, une violence incroyable. Puis un jour, elle me dit, vous me faites tous ici, moi je me casse. Alors je la suis, je l'écoute. Avant que tu partes, j'aimerais qu'on parle ensemble. Fous le camp, connard, dégage, imbécile, envoie des coups de pied et tout. Je la suis dans sa chambre, elle m'envoie la porte à la figure, je bloque la porte avec le pied, je dis, écoute, je t'ai dit qu'on causait avant que tu partes. Elle me dit, je veux pas parler avec toi. Tu m'emmerdes, t'es un connard, je me casse. Je dis, ok, très bien, ça, j'accepte tout ce que tu dis, mais on cause. Elle ouvre sa valise, elle met ses affaires dedans, je ferme la valise, je m'assieds dessus, je t'ai dit qu'on causait avant que tu partes. Et là, elle arrive vers moi avec le poing, comme ça. J'enlève vite mes lunettes en disant qu'il vaut mieux un œil au beurre noir qu'un œil crevé. Et la tendresse de Dieu a fait que j'ai pas reçu le coup de poing, c'était assez plus agréable quand même. Elle s'est arrêtée vraiment à ça. Elle me dit, mais pourquoi je suis comme ça? Et puis j'ai dit, ben écoute, assieds-toi, on va en parler. C'est génial, on a parlé un long moment. Je dis, voilà, maintenant tu as parlé, tu as rempli la condition, tu peux te casser. Et elle part en larmes, dit, je vais où, Nicolas? Je dis, ça c'est une bonne question. Je dis, mais tu voudrais rester ici? Elle me dit, mais j'ai pas d'autre lieu, je sais bien qu'il faut que je reste ici. Je dis, mais non, on n'arrive plus à te supporter. T'es trop violente. Alors, on fait un deal. Chaque fois que tu pètes les plombs, je te propose d'aller à la chapelle. J'ai dit, mais j'y crois pas, ton Jésus, ton truc blanc là-bas, j'y crois pas à ces trucs-là, moi. Je te demande pas de croire. Tu vas à la chapelle pour deux raisons. D'abord, dans la maison, Jésus, c'est le seul qui te supporte quand tu pètes les plombs. Lui, il t'engueule pas, il prend pas de risque. Deuxièmement, la chapelle est insonorisée, et donc on n'entend pas tes cris et tes hurlements quand tu es à la chapelle. Alors, elle a fait ça. Et puis, quelques temps plus tard, je passe devant la chapelle, et je la vois sortir. Et elle se tient comme ça, elle me dit, aïe, 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 Nicolas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Le cœur. Moi, je dis, ça y est, avec toutes les substances qu'elle a prises, elle fait une crise cardiaque. Je dis, saute dans la voiture, on part vite à l'hôpital. Je dis, non, c'est l'amour de Dieu. Ah, je dis, bah, c'est mieux ça, alors. Alors, elle m'a expliqué ce qui s'est passé. Elle est venue devant l'autel. Elle s'est accrochée à l'autel. Elle a regardé Jésus droit dans les yeux, elle a dit, Jésus, si c'est toi qui es là, si tu existes vraiment, alors faut que tu me le dises. Parce que moi, je ne vis plus comme ça. C'est terminé. Moi, c'est ou tu me dis que tu es là, tu m'aides à m'en sortir, ou je me suicide. Tu as une heure, montre en main. Montre suisse en main. Donc, elle s'est mise là devant. Et au bout d'une heure, elle me dit, j'ai regardé le truc blanc. J'ai dit, tu ne m'as pas répondu. C'est terminé. Si tu existes, parce qu'on se croise de l'autre côté, une fois que je serai morte, autrement, ça sera le néant. Et elle dit, je me suis levé, j'ai regardé une dernière fois l'hostie, je suis parti en larmes, je suis tombé au pied de l'autel, j'ai su qu'il était là. Elle dit, je ne sais pas combien de temps je suis resté au pied de l'autel. Elle sortait à ce moment-là, après ce moment de choc, la tendresse de Dieu. Elle n'a plus jamais eu une colère depuis ce jour-là. Après, on est parti, on a fait les 800 km de Saint-Jacques-de-Compostelle avec elle à pied. Elle a pris tous ses médocs et tout ce qu'elle avait, elle a tout jeté au fond de la grotte de Lourdes avant de partir. Elle m'a rien dit. Elle a bien fait de ne pas me dire, parce que j'aurais interdit, mais c'était bien qu'elle le fasse. Et elle dit, Marie, tu as 800 km, tu as un mois pour me soigner. Moi, je ne veux pas terminer ma vie comme ça maintenant. Tu te débrouilles. Et donc, elle a fait les 800 km. Elle a passé une année chez nous. Après, elle a fait une formation de secrétariat. Elle a passé le bac. Elle a terminé son diplôme de Sciences Po. Et elle travaille dans une grande entreprise maintenant, comme consultante et tout ça. Et je voyais récemment, elle me disait, mais j'ai besoin de l'adoration eucharistique, j'ai besoin de la messe, j'ai besoin de Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. Et c'est grâce à lui que je vis. Voilà, ça c'est la tendresse de Dieu, voyez-vous. Il y aurait des dizaines de témoignages comme ça. Mais Jésus qui est là, eh bien, c'est le cœur de notre vie. C'est le cœur du monde, c'est le rédempteur du genre humain. Et on peut venir vers lui. Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et la grâce nous est donnée par Jésus. Amen.